Les aventures de Chéri Bibi de Gaston Leroux, tome 2. Chéri Bibi et Cécilie. Chapitre 1. La morue à l'espagnol. 5 mois après les événements que nous venons de raconter dans Les cages flottantes, la ficelle, qui avait 6 millions dans sa malle, débarquait à Palmerston, petite capitale naissante du territoire du Nord, dans l'Australie septentrionale. Un bon port, quelques baraques, quelques églises et temples en bois, quelques maisons en briques. La ficelle ne s'arrêta point aux beautés du paysage. Il lui avait semblé apercevoir, au loin, sur rade, un gros navire à l'ancre qui ressemblait à l'Estrella. Cependant, il n'en avait pas reconnu les dernières couleurs. Depuis son départ, le transport avait peut-être changé plusieurs fois d'habit, de pavillon, de nom. Quelles avaient été ses aventures? Ah! Quelle nouvelle attendait le pauvre La Ficelle! Après avoir déposé son bagage à l'hôtel, il courut à la poste et il en sortit avec une lettre à l'adresse qui lui avait été indiquée, quand il se heurta à un gros petit homme qui lui roulait entre les jambes. « Petit bon Dieu! La ficelle! Ah, oh, bien mon vieux, on se retrouve! Vite, des nouvelles de Chéri Bibi! Parle-moi d'abord d'Étienne, ça a marché l'opération? Oui, je suis paré, mais Chéri Bibi, je te demande! Du moment que tu as réussi, fit Petit bon Dieu, ce sera pour nous tous une grande consolation. Chéri Bibi, je te demande! Chéri Bibi est mort, mon pauvre vieux. La ficelle lui tomba dans les bras. Il avait reçu le coup au cœur. Petit bon Dieu lui donna des soins énergiques, et quand il rouvrit les yeux, où est ton bagage? À l'hôtel. Et les millions? À l'hôtel aussi. Eh bien, mon vieux, t'as pas peur? Eh bien, quoi, tu ne vas pas tourner de l'œil, peut-être? T'as donc pas de sang dans les veines? Il le porta plus qu'il ne le conduisit à l'hôtel, le seul de Palmerston où pouvait descendre un voyageur qui avait, dans sa malle, des millions. Petit bon Dieu eut vite fait de commander une charrette. Il ne quittait pas les malles des yeux. Le bagage fut descendu, sur son ordre, dans une chaloupe où la ficelle se laissa glisser plus mort que vif. « Nagez !» commanda Petit bon Dieu au matelot qui l'attendait. La chaloupe sortit du port et se dirigea vers la haute rade. « T'as bien fait de pas perdre de temps. T'arriveras pour son enterrement, » fit Petit bon Dieu. La ficelle leva les yeux au ciel et pleura en silence. « Son enterrement, c'est une façon de parler, » dit Petit bon Dieu, « attendu qu'on va reprendre la mer pour pouvoir le jeter tranquillement à l'eau, sans que les autorités s'en mêlent. T'as compris ?» Tu sais, on est toujours fâché avec les autorités. De ce côté-là, il n'y a rien de changé. Mais réponds-moi, t'as pas fini de pleurer comme un veau? Quel malheur! Soupira la ficelle. Si je n'avais pas raté le dernier bateau à Batavia, je serais peut-être bien arrivée pour lui fermer les yeux. Non, calme-toi. On a jeté l'ancre sur rade que ce matin, et il avait déjà cramé. « Mais comment qu'il est mort? Dis-moi quelque chose. » « De la même maladie que le marquis, paraît. Seulement le marquis, lui, il se porte bien. »« C'est toujours comme ça, » sanglota la ficelle. « Les bons, ils s'en vont, et les méchants, ils restent. »« Eh bien, tu sais, nous serons rien contents de te voir revenir avec le magot. On commençait à s'embêter ferme à bord. »« L'as-tu vu avant de mourir ?» « Oui, un peu, mais il ne disait plus rien. On voyait bien que ça tournait mal. Tout le monde a eu bien du chagrin. Mais puisqu'il n'y avait rien à faire, on s'était rendu peu à peu à cette idée-là. Fallait bien. Le Canac a tout fait pour le sauver. »« Oui, c'est le Canac qui l'a tué avec tous ses trucs. Oh, quelle misère! Chéri Bibi, Chéri Bibi! Je ne lui survivrai pas longtemps, bien sûr. » « T'aurais tort, attendu que nous voilà riches. Oh, »« tu n'as pas de cœur, petit bon Dieu. Quand je t'entends parler comme ça, tiens, j'aurais envie, bien sûr, de te faire passer le goût du pain. Vois-tu ça? Fallait-il que tu l'aimes? Plus que ma vie. Si tu savais comme il a été bon pour moi. Et puis, je te dis, c'était un brave homme, une bonne nature. Mais c'était les hommes qui l'avaient rendu méchant. Les hommes, et puis la misère, et puis la fatalité. Fatalitas, comme il disait toujours. Ah, malheur, je ne l'entendrai plus dire « fatalitas » en montrant le poing au ciel. Où qu'on l'a mis ? Sur son lit de commandant, c'est sa sœur qui le veille. La bonne sœur Sainte-Marie des Anges ? Comment qu'elle va, celle-là ? V'là une brave fille. Elle va bien. Tout le monde va bien. Oui, il n'y a que chéri Bibi qui est mort. Dire que j'ai fait tant de chemin pour apprendre une chose pareille. La chaloupe aborda. Le temps était maussade, la journée pluvieuse, les vents mal réglés. Tout apparaissait triste et même lugubre à l'esprit en deuil du pauvre La Ficelle. Combien cette journée de retour était différente de celle qu'il s'était promise après tant de tribulations. Dans son rêve, il avait toujours vu, à la coupée, l'attendant avec confiance, la figure terrible de chéri Bibi, dont les traits savaient si bien s'adoucir pour lui. Et voilà qu'il apercevait la face énigmatique et qu'il avait toujours détestée, bien qu'elle fût belle et régulière, du Canac. Que venait-il faire parmi eux? Pourquoi leur apporter la fortune du moment qu'elle n'enrichissait pas chéri Bibi? Il aurait voulu disparaître dans les flots avec les millions qu'il traînait avec lui. Ces bandits, il les détestait. Ils avaient commis 1000 horreurs. Certainement, lui, La Ficelle, s'était bien rendu coupable de quelques indélicatesses. Mais il fallait en accuser le malheur des temps. Comme il avait dit pour chéri Bibi, il avait bien tué, dans des circonstances excusables, semblait-il, 2 artoupans. Mais quoi, 2 artoupans, 2 sous-cornes, ça ne compte pas. Ça prend tant de plaisir à soigner à coups de pied, de poing et de revolver la misère du pauvre monde. Ainsi, du moins, pensait La Ficelle, qui faisait déjà son examen de conscience, car il sentait qu'il ne tarderait point à rejoindre l'âme de son poteau défunt, où qu'elle se trouvât, aux enfers probablement. Il entendit, comme dans un rêve, que le Canac lui souhaitait la bienvenue. Il serra des mains par-ci, par-là, entendit la voix de la comtesse, celle de Gueule de Bois et de quelques autres, auxquelles il ne répondit même pas. Et il se laissa conduire près de chéri Bibi. La chambre du commandant avait été transformée en chapelle ardente. On avait jeté un grand voile noir, barré d'une croix blanche, sur le corps du bandit, dont la tête reposait, toute blanche, sur l'oreiller, où elle semblait dormir. Une main pendait. La Ficelle la saisit en s'écroulant à genoux. C'était une main d'ami, celle-là. Il l'avait eue souvent dans la sienne. Il en reconnaissait la rudesse, les callosités, les nœuds et les cicatrices, et sur elle, il laissa couler ses larmes. Puis il releva la tête pour le voir une dernière fois. Il était bien là, tel qu'il l'avait connu dans ses bons moments de repos, quand on ne le poursuivait pas trop, quand il pouvait respirer entre 2 méchants coups que lui imposait son éternel ennemi, la fatalité. Mais La Ficelle songea justement que chéri Bibi ne respirait plus. Et il éclata en sanglots. Alors, il vit à côté de lui une femme qui priait, et il reconnut sœur Sainte-Marie des Anges. « Vous l'aimiez bien, lui dit-il, ma sœur, vous l'aimiez malgré ses crimes, moi aussi. Je ne le répéterai jamais trop. Il était moins méchant qu'on ne croyait, allez. Tout ça, c'est de la faute à la fatalitas. » Et il s'en alla en titubant. Il avait commencé son panégyrique de chéri Bibi avec petit bon Dieu. Il l'avait continué avec sœur Sainte-Marie des Anges. Il l'acheva avec tout l'équipage. Il s'en allait de porte en porte, de batterie en batterie, de gaillard d'arrière en gaillard d'avant, en chantant les louanges de Chéri Bibi. Ce jour-là, on vit bien qu'il avait trop de peine, et on ne lui parla pas affaire. Du reste, Petit Bon Dieu avait rassuré tout le monde. Seulement, on veillait sur ses mains. Vers le soir, il pénétra chez le Canac. Et, ayant fermé la porte, il se déshabilla et sortit de ses poches intérieures 1 000 000 en billets de banque dont il s'était matelassé. « Que la volonté de Chéri Bibi soit faite !» lui dit-il. « Voilà ton 1 000 000, le Canac. Personne n'en saura jamais rien. Les autres 1 000 000 sont dans la malle jaune. Prends-les, distribue-les. Je ne veux rien voir, rien savoir, rien avoir. Je veux seulement qu'on me fiche la paix, qu'on ne m'adresse plus la parole. » Et il alla s'asseoir à la poupe au pied du pavillon. Le lendemain, sur le vaisseau qui avait repris sa route de corsaire vers l'archipel, furent célébrées les obsèques de Chéri Bibi. Furent-elles civiles? Furent-elles religieuses? Dieu seul eût pu le dire, qui écoutait la prière de sœur Sainte Marie. En tout cas, s'il ne fut pas accueilli au ciel, il fut bien pleuré sur le bateau. Le Canac fit un magnifique discours que les forçats écoutèrent avec recueillement et attendrissement. La ficelle ne cessa point de faire entendre sa douleur. Et pendant que ses camarades retournaient à leurs affaires, il commença son pèlerinage à la cage, au cachot, à la cabine de Chéri Bibi, à la cambuse où il s'était si bien défendu, à la marmite dans laquelle il s'était si bien caché, quitte à bouillir avec la soupe, enfin partout où Chéri Bibi avait porté ses pas. Comme il revenait sur le pont, il se heurta à un grand diable dans lequel il reconnut immédiatement le marquis Maxime du Touchet. Ah, évidemment, le beau gentilhomme avait bien changé. Mais la figure, si les joues étaient moins bombées, moins pleines qu'autrefois, était toujours harmonieuse avec ses lignes un peu bourboniennes qui dénotaient la race. Le marquis avait surtout perdu du ventre, mais il avait encore cette taille et ses épaules carrées qui le faisaient remarquer dans toutes les manifestations sportives. Seulement, maintenant, il marchait un peu courbé. Du reste, il n'était point tout à fait guéri, et il continuait d'être soigné par le Canac, dans cette partie spéciale de l'infirmerie qu'il avait partagée de si longs mois avec Chéri Bibi. Ses amis avaient reçu l'ordre de ne le point fatiguer, et il vivait très isolé, parlant le moins possible, très abattu, semblait-il, par sa mauvaise fortune, et attendant avec impatience le moment de la délivrance. La ficelle le regarda, passa en fermant les poings de rage. « Ah, c'est celui-là qui devrait être maintenant au fond de la mer !» À ce moment, son regard croisa celui du marquis et il tressaillit, se retint à la rampe d'une échelle pour ne point tomber. Quand l'autre eut disparu, il murmura « Bien, qu'est-ce que j'ai, moi ? Je ne peux pas regarder un marquis sans tomber en faiblesse. C'est vrai que son regard m'a fait mal. C'est peut-être parce qu'il a les yeux bleus comme Chéri Bibi. Eh, dame, tout ce qui me rappelle Chéri Bibi, ça me chavire un peu. Tout de même, c'est pas les petits yeux ronds de l'autre qui étaient si drôles quand il riait avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? » C'était plus fort que lui. Une puissance inconnue et à laquelle il ne pouvait résister le poussait à revoir ses yeux-là. Et il attendit 2 heures que le marquis du Touchet, qui était enfermé avec le Canac et les principaux du bord, sortit du carré des officiers. Alors il fut déçu, le marquis avait des lunettes noires. Voici ce que l'état-major avait décidé pour la sécurité de tout l'équipage. Le marquis serait déposé sur un coin de la côte de Bornéo, dans un petit village marin, d'où il pourrait obtenir du secours par commissionnaire qu'au bout d'une 20aine de jours. De là, il regagnerait la ligne de Chine et rentrerait en France comme il lui plairait. En plus, le marquis s'engageait à ne rien dévoiler de son aventure avant 2 mois, et cela sous peine des pires châtiments. C'était là un traitement rapide et de faveur qu'il obtenait au titre de propriétaire des millions de la Libération. Ce programme exécuté de point en point, le marquis n'aurait jamais à craindre la vindicte de la Chiourme, qui, au contraire, le considérait comme l'un de ses bienfaiteurs. Quant à tous les autres naufragés, amis de Dutoucher, ancien état-major, Barachon, de Villaine et autres, anciens équipages et anciens surveillants militaires avec leurs familles, ils seraient débarqués dans une petite île déserte du Pacifique, abritée du mauvais temps par des récifs de corail, avec 2 mois de vivres. Cette petite île était tout à fait en dehors des routes suivies par la navigation. Le Canac s'arrangerait pour faire connaître aux autorités australiennes l'existence de cette nouvelle colonie, de telle sorte qu'on vint en temps utile à son secours dans 2 mois au plus tard. Naturellement, l'état-major de la Chiourme n'était pas assez niais pour demander le secret à tout ce monde, et voilà bien pourquoi il lui semblait bon de prendre toutes ses précautions de temps et d'espace. Tous, du reste, se déclarèrent satisfaits des susdits arrangements, puisqu'il n'y avait pas à y revenir, et l'équipage, dans l'allégresse bien compréhensible où le jetait sa nouvelle fortune, ne demandait qu'à fêter un aussi heureux jour. Mais le Canac fit observer que l'on avait procédé le matin même aux funérailles de Chéri Bibi, et qu'il fallait honorer sa mémoire en retardant toute réjouissance publique jusqu'au moment où l'on pourrait s'amuser entre soi. Alors, on vota des remerciements et un vin d'honneur à la ficelle, qui ne voulut rien savoir. On finit par respecter sa douleur. L'Estrella avait mis le cap sur Bornéo. Pendant ce court voyage, la ficelle continua de vivre avec l'ombre de Chéri Bibi. Il était comme halluciné, et on commençait sur le bâtiment à le considérer et à le traiter un peu comme un fou. Par moments, il parlait tout seul, ou du moins tout le monde croyait qu'il était seul. Mais lui, il s'imaginait que Chéri Bibi était à ses côtés et l'entendait. Il naviguait non point avec son souvenir, mais avec lui. « Il est toujours à bord. Je le sens. J'en suis sûr. » Et quand il ne croyait pas, dans son imagination surexcitée, que Chéri Bibi se promenait avec lui sur le pont, il le cherchait. Il le cherchait partout, comme si l'autre lui faisait la mauvaise farce de se cacher. Il ne mangeait guère, et déjà si maigre, il dépérissait encore. Il semblait que la moindre brise allait le balayer du pont et le jeter aux vagues ou aux nuées. Un souffle, quoi. Un soir, la ficelle se laissa tomber, de plus en plus lugubre, sur un banc du pont supérieur. Il se sentait exténué, prêt à rendre l'âme. Soudain, un point blanc sur le banc attira son attention. C'était un mouchoir que l'on avait oublié là, un mouchoir assez fin qu'il glissa machinalement entre ses doigts. Mais il fut arrêté par un nœud énorme et de forme singulière que l'on avait fait à ce mouchoir. La ficelle se dressa, affolée et tremblant de tous ses membres. Ça, c'était le nœud très spécial que Chéri Bibi faisait à ses mouchoirs quand il voulait se rappeler quelque chose. Que voulait dire ceci? Qui osait faire le nœud de Chéri Bibi? Sinon, Chéri Bibi lui-même. Je te dis qu'il n'est pas mort. Je te dis qu'il n'est pas mort. Lui criait quelqu'un d'invisible, mais si fort qu'il en avait les oreilles pleines. Du reste, ce n'était point la première fois qu'il trouvait des traces vivantes de Chéri Bibi sur ce bateau, depuis qu'on avait jeté son cadavre à la mer. Comme il refaisait toutes les promenades de Chéri Bibi, il avait trouvé dans des coins des culots de pipe encore tout chauds, aux endroits même où Chéri Bibi aimait à s'asseoir pour fumer et rêver, dans des endroits où n'allait jamais personne, par exemple à l'avant, hors de la claire-voie, tout à fait sur la poulaine, où il restait là, les jambes ballantes au-dessus de la mer. Ah, mais qu'est-ce que tout cela voulait dire? Il ne rêvait pas, pour sûr. Et ce mouchoir? À qui donc appartenait-il, ce mouchoir qui portait le nœud de Chéri Bibi? On l'avait oublié là, on viendrait peut-être le rechercher. Et il se recula, alla s'adosser au bossoir de la grande chaloupe, et il attendit. Il attendit. En attendant, il pensait encore à un petit événement de la veille au soir, auquel il avait eu bien tort de ne point attacher d'importance. Oh, ce n'était pas grand-chose. Quelqu'un avait toussé dans le couloir des premières, et la ficelle en avait reçu comme un coup au cœur. Il eût juré que c'était Chéri Bibi. Il n'avait fait qu'un bond en douceur jusqu'au couloir, et là, avait aperçu le marquis, qui s'éloignait tranquillement, les mains dans les poches. La ficelle en eut crié de misère. Cependant, il avait bien entendu Chéri Bibi tousser. Entre mille, il eut reconnu la toux de Chéri Bibi. Et voilà que c'était ce marquis de malheur qui toussait comme un de la chiourme. Donc la ficelle, dissimulée derrière son bossoir, attendait. Le timonier piqua le quart de 10 heures et une grande ombre, un peu penchée, apparut. La ficelle, pour ne point tomber, saisit le bossoir à plein bras. Mais tout de même, il glissa et s'écroula à genoux, les dents claquantes. Cette ombre-là était Chéri Bibi tout craché. Il faisait un temps un peu trouble et la lune était couverte de nuées. La ficelle se fut trouvée nez à nez avec le fantôme hollandais volant qu'il n'eût pas été plus épouvanté. C'était Chéri Bibi, revenu du royaume des morts, et marchant comme lorsqu'il était vivant, avec les mêmes tics, le même déhanchement, le même traînement de la jambe et la même allure chaloupée des épaules. Ah, on ne pouvait pas se tromper. Cette fois, ce n'était pas un rêve. Après avoir vu, de ses yeux vus, Chéri Bibi mort, glissé dans un sac et jeté à l'eau avec un bon boulet au pied, il le revoyait vivant, se promenant tranquillement sur le pont, comme s'il commandait encore son navire. La ficelle cria « Maman !» L'autre, qui le touchait presque maintenant, s'arrêta bien en face de lui, sans le moindre émoi. Et la ficelle, les yeux dessillés, à la lueur certaine de la lune qui venait de se nettoyer de ses nuages, reconnaissait encore, toujours, le marquis. Ce gentilhomme ne manifesta aucun étonnement de trouver la ficelle à genoux et les dents claquant d'effroi. Un aussi mince personnage n'était évidemment point capable de retenir son attention. Il lui tourna le dos et continua sa promenade silencieuse. Mais ce n'était plus du tout Chéri Bibi, ni sa façon de marcher, ni de traîner la jambe, ni de chalouper. C'était bien le marquis par derrière comme par devant. Dans le crâne de la ficelle, les idées tournaient en une lamentable marmelade. Il s'était traîné sur le pont, tel un blessé qui a perdu l'usage de ses jambes. Il s'était adossé à la muraille. Le marquis allait, venait, comme s'il n'avait pas été là. « Un drôle d'oiseau tout de même !» pensait la ficelle. « Un drôle d'oiseau que ce marquis depuis sa maladie !» On ne le voit plus jamais avec ses amis. Il ne fréquente personne, il ne parle à personne, et il attend la nuit pour venir se promener sur le pont et causer avec les étoiles. À ce moment, le marquis, sans doute fatigué, s'assit sur le banc où la ficelle avait laissé le mouchoir. Il aperçut le linge blanc, le saisit, le regarda et se moucha dedans. La ficelle sentit que ses cheveux, qu'il portait long depuis ses voyages, se dressait sur sa tête. Il avait entendu se moucher Chéri Bibi. C'était trop pour cette nuit-là. Il s'évanouit. La fraîcheur du petit jour le ranima. Il regarda autour de lui. Le marquis n'était plus là. Cette partie du pont était déserte. Il rassembla ses idées. Le marquis avait reconnu son mouchoir puisqu'il s'était mouché dedans. C'était donc lui qui avait fait le nœud à la chérie Bibi. Le marquis, quand il n'avait pas ses lunettes, avait un certain regard à la chérie Bibi. Le marquis, la nuit, quand il ne se croyait pas observé, marchait comme chérie Bibi. On eût dit qu'il se délassait des contraintes du jour. Mais enfin, malgré tout ça, le marquis était le marquis et n'était pas chérie Bibi. Ah non, si c'était chérie Bibi, qu'est-ce qu'il aurait fait de ses oreilles et de son nez camard et d'un tas d'autres choses qu'il enlaidissait pour tout le monde, excepté pour la ficelle. Tout ça était descendu à la mer, dans le sac, avec chérie Bibi lui-même. Tout à coup, la ficelle eut un sursaut, comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. Il revoyait le canaque et la comtesse, couverts de sang, sortant de la cabine où il tenait prisonnier chérie Bibi et le marquis, à cause de cette étrange maladie qu'il soignait à coups de bistouri. Il se rappelait les cris, les gémissements, puis les subits et longs silences, comme il en règne chez les malades que l'on a endormis pour quelque opération. Il se souvenait encore de tout ce qui avait été dit à propos du procès du canaque et de la comtesse et des lanières de chair humaine. Est-ce qu'il était sur la trace? S'il ne les mangeait pas, c'était pourquoi en faire alors? Il n'avait jamais voulu dire ce qu'ils en faisaient. C'était peut-être bien, après tout, que leur truc ne leur avait pas toujours réussi. Et la preuve, c'est que à bord de l'Estrella, un des deux malades en était mort. Ah, mais, ça devait être dangereux de changer la peau des gens, surtout malgré l'un d'eux. Ah, mais, était-ce possible, une chose pareille? Ah bien, on disait que si. La ficelle se rappelait qu'il avait bien ri un soir, après la soupe, quand le maître d'équipage avait lu un article du journal, le matin, dans lequel on racontait que les chirurgiens pouvaient maintenant greffer sur un animal vivant tous les organes ou tous les membres qu'ils voulaient et qu'ils avaient pris à d'autres animaux vivants. Voici l'article en question. Hier. Devant une assemblée de savants, médecins, chirurgiens, physiologistes réunis à l'Académie de médecine, le professeur Pozzi a fait une communication du plus haut intérêt sur les belles expériences de greffes animales tentées avec succès par un chirurgien français établi à New York, M. Alexis Carrel, qui est actuellement un des directeurs de l'Institut Rockefeller. Lors d'un récent voyage scientifique fait aux États-Unis, le professeur Pozzi a constaté de visu les surprenants résultats obtenus par M. Carrel. Il en est revenu émerveillé. Les premières expériences tentées par le savant français furent des rapiécements d'arriérés. Sur une chienne de taille moyenne, M. Carrel coupa en janvier 1917 la moitié de l'aorte abdominale sur une étendue de 2 cm. Il rapiéça le vaisseau avec un morceau de péritoine prélevé sur le même animal et conservé pendant quelques jours dans de la vaseline. La chienne continua à se bien porter. 22 mois après, le 22 novembre 1918, on fit à l'animal une laparatomie. On lui ouvrit le ventre et on constata qu'il n'y avait plus aucune trace de l'opération primitive. « J'ai vu cet animal, » nous dit M. Pozzi à la fin de la séance, « le mois dernier en parfaite santé. » Mais ce n'est pas tout. M. Carrel, enhardi par ce premier succès, tenta de remplacer des portions entières de veines ou d'artères par des veines fraîches prélevées sur d'autres animaux. Le 7 juin 1917, il transplanta un segment de veine jugulaire sur la carotide d'un chien. Le 28 octobre de la même année, la circulation est tout à fait normale. Le 1er février 1919, le chien est tué dans une bataille avec ses compagnons. On constate que la veine s'est artérialisée, que la ligne de suture est presque invisible. « Cette série d'expériences est particulièrement intéressante, » dit M. Pozzi. « Elle est susceptible d'applications chirurgicales chez l'homme, et on conçoit la possibilité de traiter les anévrismes par l'extirpation de la tumeur et son remplacement pour la carotide par un segment de la veine fémorale pris sur le sujet lui-même. » Des greffes d'organes d'animal à animal furent également tentées avec succès par M. Carrel. J'ai vu deux chiens à qui le chirurgien avait temporairement enlevé puis replacé la rate. Ils se portaient bien. Mais on ne peut encore se prononcer sur le résultat avant qu'ils aient été sacrifiés. Le rein gauche d'une chienne est extirpé le 6 février 1918. Au bout de quelques minutes, après avoir été lavé et plongé dans une solution de loc, on le remet dans la cavité abdominale. La même opération est faite pour le rein droit 15 jours après. Or, le 5 mai dernier, la chienne vint gambader autour de moi. Quelques jours avant, elle venait de mettre bas, normalement, 11 petits. Des expériences plus audacieuses furent alors entreprises. En 1918, Monsieur Carrel a réussi pour la première fois à greffer la jambe d'un fox-terrier récemment tué à un chien qu'il venait d'amputer. Les muscles, les nerfs, les vaisseaux furent réunis les uns aux autres. Dans la jambe morte, la circulation cependant se rétablit. Le chien mourut 20 jours après l'opération, d'une bronchopneumonie. Au moment de ma visite, j'ai vu un autre chien noir greffé depuis 3 jours d'une patte antérieurement blanche. L'état de l'animal était fort bon. Eh bien, ce que les chirurgiens ne faisaient encore qu'avec les bêtes, le canac l'avait fait avec des gens. Seulement, ça avait dû lui coûter cher de gens. Voilà pourquoi, en cour d'assises, il avait préféré encaisser ses 10 ans de travaux forcés et se taire. Une aussi truculente cogitation faisait couler des gouttes lourdes de sueur le long des tempes de l'imaginatif La Ficelle. C'était-il possible, mon Dieu, qu'on puisse comme ça changer le masque des gens? Sans compter que si c'était possible, ça n'avait pas dû être bien difficile, car les formes de tête, en hauteur et en largeur, de Chéri-Bibi et du Marquis, étaient à peu près d'égales dimensions. Mais comment avait-on fait pour le nez, pour apporter sur le visage de Chéri-Bibi la forme du nez bourbonien du Marquis? On avait dû certainement scier le nez de Chéri-Bibi et greffer le cartilage du Marquis. Quel ouvrage! Quel ouvrage! Eh ben, il n'a pas peur, le canac, admirait La Ficelle. Ah, on dit qu'aujourd'hui les chirurgiens ne reculent devant rien, devant rien. Et puis les mains, il a fait la même chose avec les mains. Et moi qui avais pris la main du mort et qui pleurais dessus. Bien sûr, c'était la main de Chéri-Bibi, et ce n'était plus la sienne. Ça devait être plus douloureux que tous les mains. Il se rappelait à ce propos les gémissements horribles de Chéri-Bibi. Pas les mains, pas les mains. Ah bien, si on m'avait dit ça, je ne me serais pas tant fait de bile, sûr. Sacré Chéri-Bibi, va. Il n'y a que lui pour nous jouer des tours pareils. Ça, voilà un coup pour le père Bertillon. Il peut chercher les empreintes d'épiderme, maintenant qu'on change de main comme de gants, et les signes sur la peau. Sait-il que Chéri-Bibi aurait changé de peau du haut en bas? Ah, bien, je regrette qu'on ait habillé le Maccabée. Ça m'aurait fait plaisir de les voir une dernière fois avant qu'elles partent, toutes les fleurs de bagne, tatouage, que Chéri-Bibi s'était fait dessiner sur la peau du palpitant. Pauvre Bertillon, va, quelle affaire! Et la longueur des oreilles, et la hauteur du nez, et patati et patata. Enfoncer l'anthropométrie, ah là là! Non, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est pas possible. Je bave et je dis qu'il pleut. et il se mit à rire comme un fou, ne sachant plus ce qu'il devait faire de toutes les idées baroques qui lui barbotaient dans le ciboulot. La mort de Chéri-Bibi l'avait rendu louf, c'était sûr. Il se traîna jusqu'à sa cabine et se jeta sur sa couchette, où il continua de rêver tout éveillé. Et puis, vers 6 heures du matin, il s'endormit d'un sommeil de plomb. Il dormit jusqu'au soir. On était venu prendre de ses nouvelles, on s'était montré inquiet, mais il déclara dès son réveil qu'il ne s'était jamais si bien porté et qu'il avait une faim de loup. On lui demanda ce qu'il désirait manger. Il réfléchit un instant et dit « Ça ne vous regarde pas. Je vais me faire une douceur moi-même. » Il s'habilla et s'en fut à son ancienne cuisine dont il avait été le dévoué mitron. Et là, il se mit à travailler sérieusement. Il se confectionna une morue à l'espagnole, plat dont il avait la savante recette et dont jadis raffolait Chéri-Bibi. « Le pauvre garçon, disait-on autour de lui, il s'imagine encore qu'il prépare une délicatesse pour Chéri-Bibi. Comme il l'aimait !» De fait, la ficelle n'avait jamais montré autant d'application ni d'entrain au cours de toute sa carrière culinaire, et il confectionnait sa morue à l'espagnole si copieusement qu'on eût pu croire que Chéri-Bibi, qui mangeait comme 6, allait vraiment en être. 600 grammes de morue dessalée, 600 grammes de pommes de terre, 500 grammes de tomates, 100 grammes de poudre de piment rouge d'Espagne, à défaut de piment rouge frais qu'il n'avait pas et dont il eut mis 400 grammes. 40 grammes d'oignons, 10 grammes d'ail, 10 grammes de farine, 2 décigrammes de poivre fraîchement moulu, sel, bouquet garni, laurier à défaut du thym et du persil, mie de pain rassis tamisé. Ses camarades l'avaient laissé seul, car il n'ignorait pas qu'il ne fallait point troubler la ficelle quand il faisait de la morue à l'espagnole. Il coupa la morue en morceaux, la jeta cuire dans l'eau, l'égoutta quand elle fut cuite, en retira les arêtes et réserva 200 grammes de bouillon de cuisson. Il soupira parce qu'il pensait avec ennui que s'il avait eu des piments frais, il les eût pelés, émincés en languettes, et les eût saupoudrés d'un décigramme de poivre. Mais comme il n'en avait pas, il dut bien s'en passer. Il fit revenir dans l'huile des oignons pelés et hachés, il ajouta les tomates coupées en morceaux, l'ail, le bouquet garni, le reste du poivre. Il mouilla avec le bouillon de morue réservé et laissa cuire pendant 10 minutes. Il ajouta ensuite la farine pour lier la sauce. Il continua la cuisson pendant quelques minutes encore, retira le bouquet, goûta, fit claquer sa langue avec satisfaction, compléta cependant l'assaisonnement avec un peu de sel, la morue ayant été trop dessalée. Puis il passa la sauce et la réserva. Entre-temps, il avait fait cuire les pommes de terre à la vapeur. Alors il les pela et les coupa en tranches. Ensuite de quoi, il s'empara d'un plat allant au feu, il étala au fond une couche de tranches de pommes de terre, il mit dessus une couche de morceaux de morue, par-dessus, à défaut de languettes de piment, un quart de sa poudre de piment rouge d'Espagne, mouilla avec un peu de sauce et répéta 4 fois les mêmes alternances. Il saupoudra avec de la mie de pain et finalement fit cuire au four une demi-heure environ, jusqu'à ce que le plat eût pris une de ces consistances onctueuses dont l'aspect seul fait entrer les gourmets en extase. Quand il ouvrit son four, une odeur admirable, un parfum des mille et une nuits se répandit dans la cuisine. La ficelle ferma les yeux. « Oh, Chéri-Bibi, fit-il, si tu étais là !» Il rouvrit les yeux, glissa le plat sur une serviette, prit 2 cuillères, et par les couloirs déserts à 7 heures, il gagna rapidement cet endroit du pont où le marquis était accoutumé de venir se promener quand tous ceux qui n'étaient pas de quart dormaient déjà à bord. Et il déposa son plat fumant et odoriférant, non point sur le banc, où il s'asseyait d'ordinaire, mais à une vingtaine de pas de là, sur une grosse poulie. Ceci fait, il se dissimula comme il l'avait fait la veille. Le marquis ne tarda pas à arriver, et cette fois, c'était si bien le marquis que le malheureux et tremblant la ficelle sentit son cœur se serrer jusqu'à l'étouffement. Le marquis s'assit à sa place habituelle, mais soudain il leva la tête, le nez. Il semblait aspirer, avec une certaine joie inquiète, des effluves inattendues. Et il se leva, les narines palpitantes. Il s'orienta, s'en vint, après quelques hésitations, jusqu'à cet endroit qui dégageait, par cette belle nuit étoilée, de si suaves parfums. Oh, le pauvre cœur de la ficelle! Maintenant, le marquis est à deux pas de la poulie odoriférante. Il se penche, il est au-dessus du plat, au-dessus de la morue à l'espagnol. Vivement, il regarde à droite et à gauche, si on ne l'aperçoit pas. Et il se jette sur le plat gloutonnement en criant « Fatalitas !»« Fatalitas !» répète la voix délirante de la ficelle. « Ah, chéri Bibi ! Chéri Bibi !» Ils sont dans les bras l'un de l'autre, ils s'embrassent, ils s'étreignent. « Chut ! Pas tant de potins ! Et puis la morue va refroidir, la ficelle !» Et ils mangent. Voilà qu'ils mangent tous les deux leur morue, à même le plat. « Alors quoi ? Te v'là marquis, maintenant ? Tais-toi ! Que le canac ne se doute jamais que tu le sais ! Qu'est-ce que ça peut lui fiche ? Je ne te lâche plus ! C'est entendu, hein ? Oui, oui, c'est entendu. Ah, la bonne morue, mon vieux la ficelle. Tu viendras m'en faire de temps en temps chez moi, hein, dans mon marquisat. C'est vrai, maintenant c'est à toi tout ça. Te voilà le mari de Cécilie. » Chéri Bibi laissa tomber sa cuillère. Il avait assez mangé de morue à l'espagnol. « Ah, ne me parle pas de ça, » dit-il. « La seule idée de ça, ça me rend fou. » Note de l'auteur. Une transformation physique comme celle de Chéri Bibi devient de nos jours de plus en plus facile. Faut-il encore rappeler cet article du Daily Telegraph ? Les chirurgiens des États-Unis peuvent maintenant passer commande et recevoir dans l'espace de quelques heures n'importe quelle partie, pour ainsi dire, du corps humain, lesdites parties leur étant livrées vivantes et en parfait état de croissance. De même qu'une ménagère de New York peut obtenir sur demande ses denrées de première nécessité, de même les chirurgiens américains peuvent être approvisionnés de parties du corps humain, de nerfs, d'artères, des plus petites glandes du corps, de cornées, de différentes parties osseuses, de cartilages, etc. Cette déclaration sensationnelle a été faite par le docteur Alexis Carrel, de New York, qui est à la tête du service des recherches à l'Institut Rockefeller, dans une réunion tenue à Atlantic City et à laquelle assistaient les membres de l'Association médicale américaine. Le docteur Carrel fit une profonde impression sur l'Assemblée en déclarant qu'il était maintenant possible d'assurer la persistance de la vie dans chacune des parties du corps après leur ablation, et ainsi de greffer ces parties du corps sur un autre corps et de transposer les chairs d'un corps sur un autre sans difficulté sérieuse, si l'opération est faite avec méthode. Le docteur Carrel commença ses expériences sur des animaux appartenant aux classes inférieures. Un morceau du cœur d'un poulet a continué de battre 104 jours après son ablation, et l'examen microscopique a révélé le fait que les tissus qui le composaient se développèrent pendant plus de 5 mois. Au cours de cette opération de transfert, la mort des tissus ne survient pas. Et quand ceux-ci sont devenus partie intégrante d'un autre corps, la vie continue en eux. Des rapports cliniques, dit le docteur Carrel, montrent de façon très concluante que cette opération de transplantation donne toujours de bons résultats. De sorte que, maintenant que les expériences ont été complètement vérifiées, il est possible aux savants d'informer le corps médical que l'Institut est à même de donner satisfaction à ses commandes dans le plus bref délai possible. L'Institut, dit-il, est parfaitement à même d'exécuter des ordres pressés. Ainsi, dernièrement, il reçut de Chicago une demande de cartilage nécessitée par une opération dans le genou. Le cartilage fut expédié par express dans un appareil frigorifique, arriva en bon état et put être employé. Le malade recouvra l'usage de sa jambe et actuellement, il marche comme s'il n'avait jamais été malade.